à voix nue. Toute cette semaine, nous réécoutons la rencontre en 2014 entre Virginie Bloch l'aînée et Paul Tchaïkovski-Laurence, fondateur des éditions POL qui vient de nous quitter. Ce soir, l'impression d'entrer chez les gens en lisant des manuscrits.
Paul Tchaïkovski-Laurence, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes né en 1944 et vous fêtez cette année les 30 ans de votre maison d'édition, à laquelle vous avez donné pour nom vos initiales, POL. C'est en 1983 que vous créez votre maison, mais vous étiez déjà éditeur depuis 14 ans, chez Flammarion, puis chez Hachette. Vous avez notamment édité La vie mode d'emploi et Je me souviens de Georges Perec. Georges Perec est mort en 1982, juste avant que votre maison voie le jour. Vous êtes aujourd'hui l'éditeur d'Emmanuel Carrère, de Marie Dariussec, Martin Winkler, Jean Rollin, Frédéric Boyer, Valère Novarina et Atik Raimi, qui a reçu le prix Goncourt en 2008. Furent aussi édités chez POL Renaud Camus, Camille Laurence et Richard Millet, qui sont partis, car il y a des séparations dans l'histoire d'une maison d'édition. Les spécificités de POL, ce qui singularise le lecteur que vous êtes, ce qui vous bouleverse dans un texte, notamment autobiographique, car vous en éditez beaucoup des textes autobiographiques, ce seront les fils directeurs de nos entretiens cette semaine. Paul Tchaïkovski-Laurence, vous avez 69 ans, vous êtes né dans le sud de la France et vous avez grandi auprès d'une mère adoptive, une cousine de votre mère, Madame Laurence, à laquelle vous avez été confiée à l'âge de 1 an dans une ville de la Sarthe, Sablé-sur-Sarthe. Ce que je sais d'elle, je le sais grâce à un film que vous avez écrit et réalisé sur votre enfance en 2008, dont nous parlerons plus en détail plus tard dans la semaine. Cette femme était catholique et veuve. Lorsque vous arrivez chez elle, c'était une femme de quel âge ?
Alors, elle était née en 1891, donc je suis arrivé chez elle en 45-46. Il faut faire le calcul, ça fait 54 ans, je crois.
Et c'était une femme de quel milieu ?
Oh, je dirais de bourgeoisie provinciale, bourgeoisie plus ou moins aisée, ayant eu des revers de fortune à cause des biens immobiliers qui avaient perdu de leur valeur, des choses comme ça. Mais enfin bon, c'était une relative aisance, oui.
Une femme, un milieu cultivé, une femme cultivée qui lisait.
Elle lisait beaucoup, oui.
Qui vous lisait des livres ?
Qui me lisait des livres, qui me lisait le soir, il n'y avait pas de télévision, donc qui me faisait des lectures de Sans famille, de choses comme ça.
Hector Malo.
Hector Malo, exactement.
Qui écoutait de la musique, c'était une autre musique.
Oui, on écoutait de la musique à la radio essentiellement, et elle en jouait surtout. Elle jouait du piano, elle chantait, elle composait. Et ce qu'on appelait l'électrophone n'est arrivé qu'un peu plus tard, au début de mon adolescence. Donc les disques sont arrivés aussi à ce moment-là.
Qu'est-ce que vous aimiez dans les histoires qu'elle vous racontait ?
Oh, j'aimais le romanesque, hein, j'aimais pour parler de Sans famille, j'aimais beaucoup, c'était Rémi, non, le petit héros, et c'est ça, j'aimais Vitalis, Capi, etc. Enfin bon, tous les personnages, pour moi c'était très très vivant parce qu'elle lisait avec l'intonation. Et puis on écoutait aussi des lectures qui étaient données à la radio, et je me souviens spécialement de la lecture par Marcel Pagnol de La gloire de mon père. C'était le dimanche soir sur la radio nationale, qui s'appelait à l'époque, je crois, Paris Inter ou quelque chose comme ça, avant de s'appeler France Inter. Et donc il y avait Marcel Pagnol qui lisait ça, et puis il y avait eu aussi, je me souviens encore, il lisait très bien. Et puis il y avait surtout, enfin moi c'est mon grand souvenir, Maurice Genevoix lisant Rabolio. Et avec une manière de lire qui faisait rouler les mots, qui était très, très impressionnante. Enfin, on entendait la langue en même temps que l'histoire qu'il racontait.
Vous étiez bon élève ?
Non. non, j'étais... Bon, on disait que j'étais paresseux, je crois que j'étais surtout rêveur. Je rêvassais en classe. J'avais beaucoup de mal à me concentrer sur ce qui m'était raconté, ce qui m'était dit.
Vous avez fait des études de droit.
Oui, à la fin de mes études secondaires, laborieuses, j'ai fait du droit parce que je ne savais pas quoi faire et qu'il y avait des avocats dans ma famille adoptive. Donc il y en avait un spécialement qui était un homme extrêmement séduisant par son élégance, son allure, etc., sa faconde, sa manière de parler. Et je m'étais dit, tiens, je vais aller vers ça, ça m'a l'air bien. Et puis, je n'avais pas envie de faire d'études de lettres, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas envie. Et donc, j'ai fait des études de droit, voilà.
À Paris ?
À Paris, à Sass et puis au Panthéon.
Il y avait de la famille à Paris, ben, des amis ?
Il y avait d'abord ma vraie mère, pour commencer, et puis, enfin, ma mère biologique, ma mère, voilà. Et puis, il y avait mon frère, il y avait un certain nombre de personnes, oui, mon oncle, ma grand-mère, enfin bon, j'avais toute une partie de ma famille naturelle, je dirais, qui était là. Et puis, bon, j'ai quand même terminé, j'ai fait une classe de première et ma philo à Paris, donc j'avais des amis aussi.
Ça vous a appris quelque chose, le droit et la langue juridique
pour... Oui, beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ça parce qu'on procédait à des analyses de textes très, très approfondies, des interprétations, des études d'arrêt, et spécialement des tribunaux administratifs et du Conseil d'État, moi qui me passionnais. Oui. J'aimais beaucoup ça.
Et comment vous êtes passé des études de droit à un stage chez Christian Bourgois?
Ben c'est une rencontre, ce sont des rencontres. En première année de droit, j'avais repéré des étudiants qui animaient une revue de poésie qui s'appelait Strophe, au pluriel, et qui s'étaient qui avaient acquis une petite notoriété parce qu'ils avaient un peu martyrisé André Breton, je me souviens, en publiant un numéro consacré au surréalisme et dont la couverture était un faire-part de deuil annonçant la mort d'André Breton et du surréalisme. Et ça, on en voyait partout dans le quartier latin. Et puis j'avais tout d'un coup vu un étudiant en salle d'études de la fac de droit avec une pile de ses numéros de revue. Et donc j'avais lié conversation avec lui, je lui avais acheté un numéro, etc. Et de fil en aiguille, j'étais amené à rencontrer les animateurs de cette revue du même âge, donc de la même année. Et ils avaient tous été élèves en philo d'un professeur de philosophie au collège Paul Lapie de Courbevoie, je crois, Courbevoie, et qui s'appelait Paul Chollot, qui était un poète lui-même, qui était en liaison avec toute la bande des lettres françaises, etc., toute l'équipe des lettres françaises, et entre autres, hein, pas seulement, parce que je crois que Paul Chollot n'était pas très bien vu, en fait, aux lettres françaises, mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Et donc, tous ces jeunes gens s'étaient retrouvés en droit, enfin, beaucoup de ces jeunes gens s'étaient retrouvés en droit, et j'ai fait leur connaissance, et spécialement de quelqu'un qui a joué un rôle important, puisque je le publie encore aujourd'hui, c'est Jean Frémont. Jean Frémont, que j'ai rencontré en fac de droit, donc en 1964.
Et la rencontre avec Christian Bourgois,
c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années de droit, tout en faisant mes études correctement cette fois-ci, j'ai commencé à être attiré par l'édition à travers cette revue de poésie. Et je me suis mis à essayer de susciter des rencontres ou à profiter des rencontres que je faisais pour m'approcher du milieu de l'édition. Et j'ai réussi parce que ma mère avait fait ses études à Sainte-Marie-de-Neuilly et que la mère de Christian Bourgois avait fait ses études aussi à Sainte-Marie-de-Neuilly et que ma mère était restée en relation avec une directrice des études de Sainte-Marie-de-Neuilly. Il y a eu comme ça une conjonction, et je me suis retrouvé chez Christian Bourgois. Mais j'avais essayé j'avais frappé à d'autres portes avant, sans succès. Puis ma mère, s'ouvrant à cette ancienne directrice des études de Sainte-Marie, de mes problèmes à trouver un stage dans l'édition, elle avait dit « Ah, mais je connais la mère de Christian Bourgois, voilà. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, comment dire, aidé par une religieuse dans une maison d'édition qui publiait des livres qui n'étaient pas spécialement religieux. Voilà, c'était assez drôle comme conjonction.
C'est en 69, je crois.
Je suis entré chez Christian Bourgois en février 69. Oui.
C'est l'année où Samuel Beckett reçoit le prix Nobel de littérature.
Ah, c'est cette année-là, je ne me souvenais pas.
Et c'est un an après que Patrick Modiano a publié La Place de l'Étoile.
Place de l'Étoile,
en 68. Vous vous souvenez du bruit qu'avait fait cette publication?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui.
Vous l'avez aimé, ce livre?
Ah oui, j'aime tout ce qu'a écrit Patrick Modiano. Oui, je n'ai peut-être pas lu tous ses livres, mais enfin la grande majorité. Et je suis un passionné de son écriture et de son itinéraire, oui. Voilà, ça fait partie de ces écrivains miraculeux dont on ne sait pas comment fonctionnent leurs livres, de quoi est faite cette tonalité si particulière. J'ai une grande admiration pour lui, oui.
Et il y a sa vie aussi, qu'on lit dans ses livres.
Oui, bien sûr, son matériau, c'est sa vie, oui, bien sûr. Qu'il transforme très habilement, qu'il dispose, qu'il organise à travers ses livres de manière très impressionnante. Oui.
C'est un livre qui a choqué parce que c'est une parodie du discours antisémite,
oui.
En 68.
Oui, je me souviens. Mais c'est... Oui, mais enfin bon, il était facile de ne pas tomber dans ce panneau-là. Hein, je veux dire, il n'y avait rien de... À mon avis, enfin bon, la dimension littéraire montre... tout de suite de quoi il s'agit, je trouve.
Vous n'avez jamais édité Patrick Modiano ?
Si, je l'ai édité à deux reprises, une fois chez Hachette pour un livre qui s'appelait Memory Lane et qui était un livre illustré par Pierre Le Tan, c'est-à-dire que c'était vraiment une œuvre de collaboration, un texte de Patrick Modiano, des dessins de Pierre Le Tan qui se répondaient très, très bien. Et puis je l'ai édité aussi au début de la maison d'édition pour une pièce de théâtre qui s'appelle Poupée Blonde, avec aussi des dessins de Pierre Le Tan, oui.
Et Christian Bourgois, vous en pensiez quoi lorsque vous êtes entré dans sa maison d'édition?
À l'époque, je n'en pensais pas grand-chose. C'était une opportunité qui s'ouvrait. Il venait juste de créer sa maison d'édition. Donc, je ne la connaissais pas encore. Et il était surtout, et c'est pour ça que j'avais pu travailler avec lui, il était surtout directeur général de Julliard à l'époque, où il y avait la place d'un stagiaire. Et donc, je suis resté là de mon stage. C'était un stage de 3 ou 4 mois qui était censé se terminer en mai, qui était un stage non rémunéré. Et puis, à la fin du stage, j'ai été rémunéré quand même, ce qui était une bonne surprise. Et Christian m'a demandé de rester comme lecteur extérieur. Donc, je participais au comité de lecture et j'emportais des manuscrits chez moi. Et ça a duré du mois de mai 69 au mois de novembre 70. Il y a eu une petite interruption de 2 mois parce que je suis parti faire mon service militaire et que j'ai été faire mes classes, comme on disait, à Fontainebleau. Puis je suis revenu à Paris et là, j'ai continué à travailler pour Christian en cachette, en quelque sorte, puisque j'étais au ministère. Je crois que c'était le mardi, je partais du ministère un peu plus tôt, je me débrouillais, puis j'allais me changer dans un café et j'allais au comité de lecture de Christian Bourgois. Voilà.
Vous savez pourquoi Paulo Jacobski-Laurence, il vous a gardé, Christian Bourgois, il vous a dit quelle qualité il aimait chez vous ?
Il ne m'a pas dit quelle qualité il aimait chez moi, mais il a vu que j'étais très accroché par l'édition, enfin que ça me plaisait beaucoup et il a dû voir ça, et donc ça lui a fait plaisir, et il a eu envie de m'aider.
Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé en commençant ce métier de lecteur ? Qu'est-ce que vous avez senti de doué en vous ? Vous n'étiez plus un lecteur amateur, vous étiez un lecteur professionnel.
Je ne me suis pas analysé à ce moment-là et à ce point-là, mais ce que j'aimais dans cette pratique de la lecture professionnelle, c'était la découverte, oui. C'était le fait de trouver, d'être le premier à lire quelque chose qui venait de quelqu'un et qui était très, très intime, très, comment dire, très précieux pour cette personne. Il y avait quelque chose... je raconte souvent cette histoire, En fait, bon, il y a eu Jean Frémont, certainement, qui a joué un rôle en me parlant de littérature, en me faisant participer, ne serait-ce qu'à la diffusion de sa revue. Mais il y a eu aussi une émission de télévision que j'avais vue lors d'un passage chez ma mère adoptive dans la Sarthe, alors que j'étais étudiant, qui était une émission de Pierre Dumayet qui n'a pas duré longtemps parce que le principe même faisait qu'elle ne pouvait pas durer longtemps. Il invitait des gens qui faisaient un métier intéressant ou qui avaient une vie intéressante. Et le principe de l'émission, qui s'appelait Vocation, je crois, je serais vérifié, c'était de commencer l'interview alors que l'interview n'était pas commencée. C'est-à-dire que les gens étaient filmés et interrogés alors qu'ils n'étaient pas encore installés pour l'interview officielle.
Mais ils le savaient.
Ils ne le savaient pas. Il y avait trois parties. Il y avait la première partie qui était donc la personne arrivant sur le plateau, les préparatifs, etc. Puis Dumayet posant des questions quand même. Voilà. Et puis il y avait après la partie officielle où on voyait tout de suite les gens se redresser. Et puis à la fin de l'émission, ça continuait, bien que l'émission soit arrêtée. Officiellement aussi. Et donc, il y avait moi, je n'ai vu que celle-là, en fait, mais c'était Jean Cayrol. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné parce que je crois que c'est là que j'ai vraiment formalisé cette envie de faire de l'édition, parce que Jean Cayrol avait dit le plaisir qu'il ressentait à ouvrir des manuscrits. Et il disait que c'était comme ce plaisir indiscret qu'on peut ressentir, ou cette émotion, ou cette fascination qu'on peut ressentir quand on se promène dans la rue et qu'on voit les fenêtres allumées au rez-de-chaussée, qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. Et qu'il avait l'impression d'entrer chez les gens en lisant des manuscrits. Et c'est vrai, c'est une impression que j'ai tout le temps, oui, aussi.
Dans les années 70, il y a une autre grande figure de l'édition, en plus de Christian Bourgois, qui est Jérôme Lindon.
Oui.
Vous l'admiriez ?
Écoutez, j'étais bien forcé de l'admirer parce qu'il était admirable. Oui, c'était bon, son catalogue parlait pour lui. À l'époque, moi, je ne l'ai connu que tardivement. Je l'ai connu, je pense, dans le milieu des années 70. Je ne sais pas. J'ai dû le connaître après avoir créé ma collection chez Flammarion. Donc, j'ai dû le connaître en 74, quelque chose comme ça, 75.
Vous aimiez Beckett?
Ah oui, oui, bien sûr. C'est Jean Frémont qui m'avait fait découvrir Beckett, et puis un certain nombre d'auteurs du nouveau roman, comme Rob Criet, etc.
Parce qu'on rapproche souvent vos deux maisons, les éditions de Minuit et les éditions POL, parce que ce sont deux petites maisons artisanales et qui font attention à la recherche formelle des auteurs.
Je suis d'accord sur ce rapprochement à travers cet intérêt pour la forme des livres et pour les recherches que la littérature peut... auxquelles la littérature peut donner lieu. Mais il y a plein de différences aussi, ne serait-ce que parce que les éditions de Minuit est une maison d'édition véritablement indépendante. Moi, je fais partie d'un groupe, j'ai toujours fait partie d'un groupe. Ça a d'abord été Flammarion, ensuite Gallimard. Et puis, je publie de la poésie, ce que ne fait pas Minuit. Je publie des étrangers, j'en publie pas beaucoup, mais ce que ne fait pas Minuit, etc. Il y a plein de différences.
Vous ne publiez pas de sciences humaines, pas
je
de sociologie.
Publie très peu de sciences humaines, mais je publie des essais qui penchent plutôt vers la littérature que vers les sciences humaines. Mais quelques essais, oui.
Et il y a un autre point de raccordement, c'est la sobriété des couvertures.
Oui, on peut m'accuser aussi d'avoir un petit peu imité la couverture Minuit, parce qu'elle est blanche avec une typographie bleue, je crois qu'on est à peu près les deux seuls à faire ça, donc c'est un rapprochement formel, alors sur le plan matériel, qui s'impose là, oui.
Et qui permet quoi ? Parce que la sobriété
de la couverture. Oh, bah écoutez, d'abord, ça m'épargne des recherches iconographiques pénibles et inutiles. J'ai eu un moment, l'identité de la maison a mis du temps à s'établir graphiquement, parce que au début, d'abord, quand j'étais chez Hachette, quand j'ai fait cette collection chez Hachette, il y avait une couverture que j'adorais, qui avait été trouvée par un maquettiste que j'avais connu chez Flammarion. Et j'ai évidemment et normalement quand j'ai créé ma maison, j'ai demandé à ce maquettiste de me faire la couverture des éditions, et il a eu la main moins heureuse, je dirais. C'était pas une couverture qui était tout à fait réussie, je n'étais pas très satisfait, on a commencé comme ça. Et puis, comme je n'étais pas satisfait de cette couverture, que sans doute les commerciaux avec lesquels je travaillais à l'époque, c'est-à-dire donc la diffusion Flammarion, devaient trouver que cette couverture ne fonctionnait pas, j'ai voulu faire des couvertures illustrées. Je me suis rendu compte de mon malheur. Autant par exemple Christian Bourgois était doué pour ça, et Dominique Bourgois aussi maintenant. Ils font des couvertures merveilleuses, illustrées. C'est exemplaire même, je dirais, de ce point de vue-là. Et autant moi, j'étais pas du tout doué, donc j'ai cherché une autre couverture. Et puis là, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai été voir un très grand directeur artistique, qui est Maurice Coriat, Et alors, le mérite de Coria, c'est qu'il est modeste. Je ne sais pas comment dire ça. Il est ouvert, il écoute. Et on a donc eu des échanges comme ça. Et bon, bien entendu, c'est lui qui a trouvé la couverture, mais on a tâtonné. Et on est arrivé à cette couverture. C'est lui qui a trouvé notamment ce papier formidable, enfin qui identifie vraiment très très fortement cette couverture et la maison. Et puis la typographie, il a été la chercher dans le métro de Londres. Hein. C'est d'un caractère Gill qui est c'est la signalétique du métro de Londres. Elle est en Gill. Et puis bon, un autre caractère pour le nom de l'auteur, mais pour les titres, c'est du Gill. Voilà.
Donc, Flammarion, vous y entrez en 1972, vous y créez une collection qui s'appelle Tex.
Non, je rentre chez Flammarion en 70, fin 70, après donc avoir terminé mon service militaire. Christian venait de perdre la direction de Julliard, et s'était recentré sur Bourgois, sur la maison Bourgois. Et donc, il ne pouvait pas m'embaucher. C'était pas possible matériellement. Donc, j'ai cherché du travail. J'en ai trouvé grâce à des personnes que j'avais rencontrées pendant mes recherches, notamment une personne qui a été une célèbre attachée de presse dans Paris qui s'appelle Monique Maillot, qui était attachée de presse chez Grasset et qui m'a mis en relation avec quelqu'un de Flammarion, une autre attachée de presse, Claude Dallator, qui est morte maintenant. Et je suis rentré chez Flammarion en 70, voilà. Et c'est en 72 que j'ai créé la collection Texte.
Vous éditez qui dans cette collection ?
Alors, j'édite Bernard Noël, Marc Chlodenko, Jean Frémont, Jean Dève, voilà.
Des auteurs qui vous ont suivi.
René Belletto.
Que vous éditez encore.
Que j'édite encore. Marc Chlodenko, je vais publier un livre de lui en février, ça fait donc... ça fait 41 ans que je le publie, oui.
Et puis vous partez chez Hachette ?
Je pars chez Hachette en 77, enfin fin 77, début 78, à la suite d'un désaccord chez Flammarion. Et puis bon, cette espèce de désir de prendre mon essor. Enfin bon, on expérimente ses limites, et puis il y a des limites qu'on peut franchir, alors ça franchit. Et donc j'ai quitté Flammarion pour être un peu plus, avoir un peu plus d'autonomie. Et ce que m'offrait Hachette à l'époque.
Et chez Hachette, vous créez une collection qui porte vos initiales.
Voilà,
ça
s'appelle Hachette POL. Voilà, et donc là, j'ai dû publier... 82 titres, je crois. Je m'en souviens parce que c'était un sujet de plaisanterie avec Daniel Salnave que j'avais publié donc chez Hachette. Et quand je suis parti, il y avait eu un communiqué dans la presse disant « Après 82 livres publiés, 5 ans passés chez Hachette et 82 livres publiés, Paulo Tchaïkovski et Laurence créent sa maison d'édition. » Et elle s'amusait à dire « Après 82 ans passés chez Hachette et 5 livres publiés, Paul Tchaïkovski. » Voilà. Donc je me souviens du chiffre 82.
Et alors, quand vous créez votre maison d'édition, après avoir édité Georges Perec dans cette collection POL chez Hachette, vous mettez au bas de cette couverture cette pastille, donc des noires, des blanches, je ne me souviens plus le nombre de blanches et de noires. Ce sont des pastilles que l'on trouve à la page 566 de la vie mode d'emploi.
C'est ça, exactement. Oui.
C'est une figure du jeu de Go.
Oui.
Qui veut dire sérénité.
Non, qui veut dire éternité.
Ah, éternité.
C'était beaucoup plus prétentieux. Ah oui. Mais enfin, bon, c'est pas écrit dessus non plus. Moi, je sais qu'elle veut dire l'éternité. Enfin, au jeu de Go, quand la partie est bloquée, c'est à peu près... Bon, l'autre jour, un joueur de Go m'a expliqué que c'était pas du tout ça. Mais enfin, bon, j'ai oublié son explication. Mais disons que ça ressemble à la situation de pâte aux échecs. Ou si quelqu'un déplace un pion, l'autre déplace un pion. Et ce qui est, en général, ce qui se fait dans les jeux où il y a des... immédiatement, toute attaque est... contre-attaquer et annuler. Donc, ça ne peut pas changer. Et c'est un petit peu la même chose au jeu de Go, même si les règles sont différentes. La partie ne peut plus se terminer. Voilà. Donc, cette figure s'appelle l'éternité.
On reparlera demain soir, Paul Tchaïkovski-Laurence, de l'importance de ce livre pour vous et de Georges Perec. Mais si vous avez mis ces pastilles-là, c'est qu'il a, il vous a donné une impulsion pour créer cette maison d'édition. J'ai voulu rendre hommage.
Je pense que je n'aurais jamais créé cette maison d'édition, si, ou alors beaucoup plus tard, si Georges Perec n'était pas mort.
Et c'est sa mort qui lui a donné la...
C'est sa mort parce que je l'avais en quelque sorte attiré chez Hachette. Et je ne me serais pas senti le droit de le laisser tomber en allant créer ma maison d'édition. Cette maison d'édition, je ne l'ai créée que parce que je me suis heurté de nouveau à des limites au cours de mon itinéraire chez Hachette. Et qu'à un moment, je me suis dit, la seule chose à faire, c'est de m'en aller. Mais je n'ai pu prendre cette décision que parce que Georges Perec venait de mourir. Et je pense aussi que le fait qu'il soit mort m'a mis dans une position plus fragile chez Hachette.
Merci Paul Tchaïkovski-Laurence. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2014 entre Virginie Bloch-Lenné et Paul Tchaïkovski-Laurence, fondateur des éditions POL. À voix nue, coordination Claire Poincignon, production Virginie Bloch-Lenné, réalisation Anne-Pascale Desvignes et Annabelle Brouard, prise de son Bernard Quentin.